France Inter, le 6-9 du week-end.
8h moins le quart, c'est la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous nous présentez ce matin une fleur dite la plume du Kansas.
Et oui, et elle mérite d'être connue car elle est rare dans nos jardins. Et c'est dommage car c'est vraiment une très jolie fleur. Le liatris, c'est son nom botanique, est une plante herbacée à bulbes qui produit de longues tiges qui peuvent atteindre 1,20 m et au bout desquelles apparaissent des fleurs le plus souvent blanches, mauves ou violettes et disposées en épis. Pour faire simple, ces fleurs ressemblent un peu à celles du buddleia et comme lui, elles attirent les abeilles et papillons. La plume du Kansas est un peu moins drôle, attire aussi et en nombre les escargots et limaces, et leurs racines sont très appréciées des petits rongeurs. Excepté ces quelques inconvénients, la plume du Kansas, disais-je, se plaît au soleil et en situation mi-ombrée, aime les terres fraîches, à savoir humides, mais sans excès, et se fiche totalement du froid. Elle ne grelotte qu'à moins 20 degrés. Voilà donc la présentation de la plume du Kansas.
Et cette plume du Kansas, est-il vraiment utile de demander sa terre natale avec un tel nom ?
Oui, car les botanistes sont parfois d'aimables plaisantins ou se trompent tout simplement. Par exemple, le sophora du Japon est né en Chine, le marronnier d'Inde en Grèce et en Albanie, le peuplier d'Italie en Afghanistan, le yé d'Inde, la rose d'Inde et même le coche en Inde, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La plume du Kansas, pour être donc précis, est originaire du Québec, de l'Est des États-Unis et du Kansas en particulier.
Et le Kansas est en plein milieu de l'Amérique du Nord.
Tout à fait.
Si les Américains ont appelé cette plante ainsi, c'est certainement pour sa ressemblance aussi, la ressemblance de cette fleur avec une plume.
Oui, mais une petite nuance, car ce sont les Français et les Québécois qui la nomment ainsi, donc en fait les francophones. Les Américains lui préférant le nom de, et c'est très joli également, de plume joyeuse. C'est beau une plante qui s'appelle plume joyeuse. Ou encore, écoutez bien mon anglais, il est extraordinaire, blazing... Ne souriez pas, Patricia Martin.
Je ne me permettrai pas.
Je fais un effort à propos de l'anglais. Il l'appelle encore Blazing Star.
Blazing Star, star, l'étoile étincelante.
Bravo, bravo. Je n'ai donc pas besoin de donner la traduction. Alors, à propos du Kansas, sachez enfin que la fleur symbole de l'État est non pas la plume, mais le tournesol et l'arbre, le peuplier de Virginie. Pourquoi, là encore, un peuplier de Virginie? Eh bien, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Quand je dis que les botanistes sont des gens curieux...
Ils s'amusent.
Oui, ils s'amusent.
Ce sont des plaisantins,
ils
parfois.
Ils sont taquins.
Un peu comme vous, Alain Baraton. Vous allez répondre aux questions et aux interrogations. Vous allez donner vos conseils aux auditeurs et auditrices de France Inter. Laure, par exemple, vous demande « Que puis-je planter en mars au potager sans risquer les gelées à venir ?»
Tout dépend, bien entendu, de la région dans laquelle nous habitons. Si vous habitez la Normandie, eh bien, les temps le gel à craindre arrivera peut-être plus tard que si vous habitez le sud de la France. Donc on parle généralement du sud et du nord de la Loire. Il faut bien sûr en tenir compte. Et puis il faut également tenir compte de l'exposition au vent, à la pluie, etc. etc. Mais il est possible, sans s'affoler, on dit bien en mars, plutôt fin mars, déjà de semer des betteraves, des carottes, du cerfeuil, de la ciboulette, du cresson, pourquoi pas, des épinards, les fèves. J'aime beaucoup les fèves, parce que déjà c'est très bon à manger, mais en plus les fèves attirent dans le jardin tous les pucerons noirs. Quand vous avez des pieds de fèves, ils vont tous sur le végétal et ignorent les autres végétaux, ce qui vous permet d'éviter d'avoir l'idée de tenter. On peut également semer des pois, du pourpier, les radis. J'aime bien les radis parce que sur les étiquettes, souvent, il y a marqué de radis de 18 jours. Vous êtes supposé récolter les radis 18 jours après les avoir semés. Je défie quiconque de les manger aussi rapidement. Il faut toujours un petit peu plus de temps. Donc, il y a quantité de plantes que l'on peut semer maintenant, mais attention, on prend son temps, soyons prudents.
Et vous en parlez ce matin devant un agriculteur, Olivier Alain, qui est aussi vice-président du Conseil régional de Bretagne, qui sera l'invité de participer ce matin.
Et qui vous écoute depuis des années, qui vous aime beaucoup.
Dans un instant, l'occasion de saluer le monde agricole, qui est un monde absolument extraordinaire.
C'est vrai.
Qui est un monde où on travaille, qui travaille avec la terre. Et l'occasion de rappeler que ma corporation, les jardiniers, doivent beaucoup aux agriculteurs, car beaucoup de, malheureusement, de paysans ont dû quitter leur ferme dans les années 1950, faute de travail. Ils sont devenus en ville, pardonnez-moi, jardiniers.
Jean-Marc vous pose cette question, Alain Baraton. De petits rongeurs ont élu domicile dans un de mes composteurs. Mon épouse prétend qu'ils vont faire des dégâts et qu'il faudrait les éliminer. Qu'en pensez-vous, Alain Baraton?
Tant qu'il reste dans le composteur, c'est pas très gênant, les petits mulots. Mais il est vrai que la faculté de reproduction de ces bestioles est quand même hors du commun. Donc, s'ils se sentent rapidement à l'étroit, ils risquent de coloniser ensuite la propriété, enfin, le potager. Et il n'est pas évident de s'en débarrasser. Donc, n'attendez pas d'en avoir trop pour faire le tri. Et profitez-en pour adopter un chat. Les chats adorent ce genre de petites bestioles. Un, ça fait faire à votre petit félin de l'exercice. Et ça permet de limiter la prolifération. de ces bestioles.
Un jeu cruel.
Oui, mais les rongeurs dans le composteur, ça aère le composteur au final.
Bien sûr, ça facilite la décomposition, mais point trop n'en faut quand même.
Marie-France nous écrit qu'elle a ajouté un peu de terre à une plante verte qu'elle a depuis 20 ans pour la booster, dit-elle, et avec une cuillère en plus de compost fait maison. Or, depuis, elle voit de minuscules vers blancs à la surface. Vont-ils manger les racines, demande-t-elle.
On a tendance, quand on parle du compost, à oublier qu'avant d'épandre le compost, il est bon de le tamiser. Tamiser, c'est tout simplement l'agiter pour retirer tout ce qui n'a rien à faire dans la décomposition végétale, et en particulier quantité de larves et d'asticots. Donc, effectivement, vous avez des larves qui vont boulotter, mais avec une vigueur hors du commun, les racines du végétal. On supprime, quand c'est visible, l'ensemble des vers que l'on voit. Là, par contre, on les prend, on les jette dans le jardin. Cela fera le délice des petits oiseaux.
Allez, rapidement, Frédéric, peut-on utiliser de l'écorce d'eucalyptus pour pailler des framboisiers ou des plantes potagères?
Réponse, non. L'eucalyptus produit des substances que n'aiment pas les autres plantes.
Votre conseil, lecture ou...
Très beau livre. Gérard Jean, il nous avait déjà intéressé avec son livre L'émouvante beauté des feuilles. Il renouvelle avec Flore théâtrale au jardin de Pélinec. Flore théâtrale, c'est des photographies des plantes qu'il cultive dans son propre jardin. Un jardin magnifique dans les Côtes d'Armor. C'est un très beau livre publié aux éditions Ulmer. Un joli cadeau à faire ou à se faire. Je rappelle le titre. Flore théâtrale au jardin de Pélinec de Gérard Jean.
Mais ça va intéresser l'invité de Patricia Martin qui arrive. C'était la main verte d'Alain Baraton. Il est 7h51.